Évangile selon Jean, chapitre 16 et verset 22. Jean, chapitre 16, verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Il est court, je vous le relis. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. On va prier pendant un instant, s'il vous plaît, demandant à Dieu qu'il bénisse ces quelques mots que nous allons partager maintenant. Seigneur, nous sommes là devant toi et notre cœur est tellement désireux de voir ta gloire. Alors nous croyons que tu vas bénir ces quelques mots, ces quelques échanges, cette méditation, et tu vas faire en sorte que personne ne passe à côté de ta joie, que personne ne passe à côté de ta paix, que personne ne se prive de ta grâce et que personne ne quitte ce lieu sans avoir été consolé, encouragé et béni. Je te supplie d'étendre ta main, je te supplie d'agir maintenant et de te glorifier en toutes choses. À toi l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. En lisant ce verset, je me disais que on a davantage tendance à dire « la joie est partie ». Les problèmes, les difficultés sont installés et malheureusement, on a l'impression que la tristesse a posé ses valises dans notre maison. On a du mal à quelquefois même réaliser qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Mais s'il fallait faire un sondage, les Français ne sont pas les plus optimistes de la Terre, vous le savez. On est plutôt même un petit peu sacrément pessimiste. Le fait est qu'il n'y a pas grand-chose pour se réjouir. Et dans toutes les familles, finalement, dans tous les foyers, il y a toujours, à la joie de la naissance, une succession d'événements qui font que la tristesse des dures réalités de la vie peut s'installer. Et c'est contre ça que je voulais parler cet après-midi, et qu'ensemble on puisse combattre cette fatalité-là, parce que la tristesse, c'est malheureusement une fatalité, et ce qui peut rendre la joie quand il y a un malheur, quand il y a une difficulté, me semble-t-il, vient d'un message fort. Et je n'ai pas trouvé d'autre message plus fort que celui de l'Évangile. On a des économistes très forts, on a des philosophes très intelligents, on a des scientifiques très capables, et dans des revues, dans des magazines, dans des journaux, ils pourraient vous annoncer de bonnes nouvelles, mais j'ai rien trouvé de plus efficace que le message de l'Évangile. Alors cet après-midi, on va voyager ensemble et on va voir qu'est-ce qui peut arriver lorsque Dieu fait un miracle dans une famille. J'ai choisi trois passages où il est question carrément de résurrection. Au moins, vous pourrez comprendre qu'on n'est pas en train de jouer sur l'inconscient. Il s'agit de morts qui vont ressusciter. Et béni soit Dieu. Parce que quand un mort ressuscite d'entre les morts, à moins d'appeler ça un miracle, il n'y a pas d'autre formule. Vous êtes obligé d'appeler ça un miracle. Si quelqu'un est mort et tout le monde sait qu'il est bien mort et qu'il revient à la vie, ce sera miraculeux. Ce matin déjà, on a parlé d'un homme qui est ressuscité. Quels sont ceux qui étaient là ce matin? Vous savez ce qu'on a dit de lui, hein? Que quand il est ressuscité, il a dû être content quand même, hein? Incroyable, je revis. Il sort, il était dans une grotte, il sort de la grotte et il s'aperçoit que la minute d'après, il peut encore mourir. C'est effrayant ça quand même, parce qu'il y avait une armée qui était venue pour faire la guerre à quelques-uns qui avaient jeté le mort dans la caverne. J'imagine que revenu à la vie devait lui être encore précieuse. Il a dû courir pour échapper à une deuxième mort si soudaine. Ce serait pas de bol quand même, hein? À peine vivant, mort à nouveau. Moi, je crois que le message de l'Évangile peut donner la vie, mais pas pour 3 secondes. Ça peut, malheureusement. Mais si ça pouvait durer, ce serait bien quand même. Alors, on va espérer, et on a prié pour ça, que dans la demi-heure qui vient, vous ressuscitiez d'entre les morts. Et que ça ne dure pas le temps de la galette des rois, mais que ça dure un peu plus quand même. Et pourquoi pas 1 an, et pourquoi pas 10 ans, et pourquoi pas 40 ans si vous êtes costaud, et si Dieu vous prête vie, et pourquoi pas 60 ans. Il y en a qui peuvent prétendre encore 70 ans hein, devant eux, sans problème. Hein. Ouais. On est costaud dans les Hautes-Alpes. Mais Dieu peut vous prêter vie longtemps. Et que la vie qui vous reste soit pas une succession de malheurs, de peines, de douleurs et de souffrances et de larmes, et de malheurs et de peines et de souffrances et de larmes, mais qu'il y ait un sursaut, quelque chose de surnaturel qui fait que vous allez trouver Jésus. Et Jésus va venir vous retrouver. Et à partir de ce moment-là, votre joie, personne ne vous la ravira. Cette joie que l'Évangile pourra vous donner et qui sera réelle, personne ne pourra vous l'enlever. J'aimerais vous dire que Jésus est parti au ciel après avoir accompli l'œuvre de la croix. Le dernier chant d'ailleurs que l'on a interprété le disait bien. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les grands discours que l'on pourrait faire sur la terre. Et c'est tellement vrai. Il est reparti au ciel, mais il a quand même dit « Je reviendrai ». Et malgré qu'il soit parti, sa joie reste quand même une probabilité, pour ne pas dire une réalité, pour ceux qui le souhaitent cet après-midi. Un exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, on raconte l'histoire d'une femme qui, malheureusement, vient de connaître un second malheur. Le premier de ses malheurs, qui n'était pas des moindres, elle était veuve. Et malheureusement, toutes celles qui ont connu cela savent la douleur de se retrouver seule, ce que ça peut signifier d'être seule quand on a vécu avec un conjoint pendant de nombreuses années. C'est terrible, c'est dur, c'est difficile. Il faut tout affronter, il faut se remonter les manches, il ne faut pas se décourager, on n'est quelquefois même pas seul. Il peut y avoir une famille, il peut y avoir des enfants, il faut encore les élever. C'est certainement quelque chose des plus tragiques, des plus terribles. Cette femme avait déjà perdu malheureusement son conjoint. Et voilà qu'elle vient de perdre le deuxième être le plus cher qu'elle avait au monde, son fils unique. L'Écriture nous dit que cette femme, avec ceux qui l'accompagnent, vont en direction du cimetière quand tout à coup, Jésus vient, Jésus arrive. Jésus était parti, Jésus était ailleurs, mais voilà que Jésus revient, Jésus passe à nouveau par cet endroit et se trouve là. Et la Bible dit que Jésus va arrêter le cortège funèbre. Carrément, il va poser sa main sur le cercueil, ce qu'aucun juif d'ailleurs n'aurait fait, parce que toucher un mort et approcher un mort et toucher un cercueil, c'était pour un homme religieux le rendre totalement impur. Mais Jésus le fait. Parce que quelque part, la mort est un obstacle pour les hommes, mais certainement pas pour Dieu. La mort est une tragédie pour l'être humain, parce qu'il naît, il vit, il meurt. Mais pour Dieu qui est éternel, ça n'a aucun effet. Ça ne peut pas l'atteindre, ça ne peut pas le souiller en quoi que ce soit. Il demeure le maître. Alors il va mettre la main sur le cercueil. Tout le monde s'arrête. Et il va simplement s'adresser aux morts. En quelques mots, jeune homme, lève-toi. Cet homme va se redresser. Et la Bible dit précisément ceci. Le mort s'assit et se mit à parler. Bien sûr, il savait parler avant, il saura parler après. Il revient à la vie. La mère, tout étonnée de revoir son fils, mais toute la foule qui est là, mais qui suivait, on imagine un peu le drame, mais à partir de ce moment-là, va réaliser qu'il vient de se passer un prodige, un miracle. Et ils vont dire, mais Dieu a visité la terre. Je crois que quand Dieu visite la terre, il donne de la joie. Amen. Il donne de la joie. Quand Dieu vient vers les hommes, quand Dieu s'adresse aux hommes, il vient leur apporter la joie. En somme, il me semble en lisant ce texte, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de cette femme, on ne connaît pas l'histoire de cette famille, on ne sait même pas comment elle s'appelait, on ne sait plus rien d'elle d'ailleurs, ni avant, ni après. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait rien d'elle avant et qu'on ne saura plus jamais rien après, qu'elle n'a pas existé. Finalement, elle ressemble à, je ne sais pas, 5,8 9 milliards d'habitants sur la Terre. Sur les 6 milliards, combien sont connus? Prenez le dictionnaire, prenez les noms propres, ça en fait quelques milliers, mais sur des milliards. Là, vous vous connaissez entre voisins, mais à Sydney, en Australie, vous ne connaissez pas, hein. Ou alors, vous ne le savez pas, ou peut-être Facebook, mais physiquement, ils ne me connaissent peut-être pas, ils ne savent même pas qu'il existe un Stéphane Vautier à Gap. Ça ne les intéresse même pas, d'ailleurs. Nous ne sommes que des anonymes, finalement, à tout bien regarder. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Devant Dieu, il n'existe aucun anonyme. Ça n'existe pas. Pour nous, ça existe, tant et plus. Je pense que ça vous est déjà arrivé de recevoir un coup de fil par erreur. Ça sonne, allô ? Oui, au fait, n'oublie pas, tout à l'heure, quand tu viens. Et là, vous dites, mais vous êtes qui ? Ah, je ne suis pas chez un tel. Non, non, oh, excusez-moi. Ça arrive, les faux numéros. On a mal tapé le numéro, la communication ne s'est pas faite dans le bon sens. Mais finalement, vous avez communiqué avec quelqu'un qui ne vous connaît pas. Bref, il ne vous retiendra pas. Dans son esprit, vous êtes un anonyme. Et la personne qui vous a appelé reste une personne totalement anonyme. Ça ne vous intéresse pas, vous ne la rencontrerez certainement jamais. Et finalement, nous ne sommes qu'un rassemblement d'anonymes. Mais pour Dieu, l'anonymat n'existe pas. Jésus vient dans ce petit village de Naïn. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le village de Naïn ? Apparemment, rien. Quand on lit l'histoire, quand on lit les évangiles, ce n'était pas son quartier général, ce n'était pas un endroit de repli où il aimait bien se retrouver pour passer un temps de repos avant de repartir sur les routes. Ça ne semble pas être, là aussi, une ville particulière où un des disciples, un des apôtres, ait eu sa famille. On sait que Pierre se trouvait dans une autre ville, Capernaum. On a des détails par rapport à cela. Mais Naïn, rien. Rien. Sauf que, à Naïn, il y a une veuve qui pleure. À Naïn, il y a une veuve qui est effondrée, est écrasée par la tristesse. Et c'est une femme qui ne rira certainement plus avant longtemps. C'est une femme qui ne pourra pas dire « je suis dans la joie » avant combien de temps. C'est une femme brisée, c'est une femme en détresse, c'est une femme malheureuse. Parce que finalement, elle a perdu ce qui était le plus cher pour elle. J'aimerais vous dire que devant Dieu, il n'y a pas de grand. Et il n'y a pas de petit, il n'y a pas de sans grade, il n'y a pas d'anonyme. Il n'y a même pas des personnes qui seraient méritantes. Méritantes, non. Dieu aime tout le monde de la même manière. J'aimerais vous encourager cet après-midi en vous disant, oui, Dieu t'aime. Mais il t'aime comme il a aimé Saint François d'Assise, Martin Luther, j'en sais rien. Prenez une personnalité, quelqu'un, un chrétien connu, Henri Dunant ou d'autres. Henri Dunant, c'est la Croix-Rouge. Voilà. Il a aimé une foule de personnes comme ça, extraordinaires. Et vous vous dites, oui, mais moi j'ai rien, j'ai pas de charisme, j'ai pas de qualité, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai pas beaucoup de qualité. Mais Dieu t'aime comme il a aimé ces gens-là. Devant Dieu, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Il veut donner la joie. C'est ça qu'il veut faire. Il veut donner la joie. Cette femme méritait d'être dans la joie. Et cette femme a tout perdu. Et cette femme pouvait s'imaginer qu'elle ne voyait pas bien qu'est-ce qui pouvait lui arriver de pire. Certains auraient pu l'encourager en lui disant « Ne t'inquiète pas, toi au moins tu vis. » Ben justement, peut-être que le meilleur eût été pour elle de partir aussi. Hein, quand vous avez tout perdu. Vous n'avez même plus envie de vivre. Vous n'avez pas le goût de la vie, le goût de vivre. Mais cette femme va retrouver la joie. Pourquoi ? Parce que Jésus vient vers cette femme. Jésus s'adresse aux morts pour lui commander de revenir à la vie. C'est miraculeux. Le jeune homme se lève. Est-ce qu'un mort entend quelqu'un qui parle ? Ça m'étonnerait. Mais quand c'est la voix de Dieu, elle traverse la mort. Elle traverse l'inconscient. Et elle peut parler à n'importe quel être. Cet après-midi, sachez que Dieu vous aime. Sache que Dieu t'aime. Et si pour toi c'est quelque chose, et si pour vous c'est quelque chose de totalement impensable, j'aimerais vous dire que Jésus ne s'est pas trouvé là, à Naïn, par hasard. Pas plus que vous êtes dans ce lieu par hasard. Je crois que Dieu a permis cette rencontre. Et ce n'est pas une rencontre avec nous, c'est une rencontre avec l'Évangile. C'est une rencontre avec le Prince de la vie. C'est une rencontre avec celui qui peut bénir. Finalement, Jésus est venu à Naïn pour elle. Jésus est venu sur la terre pour se sacrifier pour elle. Jésus est venu se sacrifier. Son sang parle beaucoup mieux que tous les autres. Il est venu pour vous donner la joie, pour vous donner un avenir et pour vous consoler. Si votre cœur était anéanti, il reconstruit ce qui est détruit et il l'a fait Ah, on s'est réjoui. Je pense que pendant un bon moment, on a dû se réveiller tous les matins en disant « j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé ?» Et la maman, je ne suis pas persuadé qu'elle ait dormi la première nuit, elle a dû le regarder en disant « il respire, c'est bien lui ». Voilà. Quand il se passe un miracle, ça paraît tellement incroyable qu'on aurait peur que ça disparaisse. Et pourquoi ça disparaîtrait ? Dieu tient le temps, tient votre vie dans sa main, et s'il vous donne, il ne reprendra pas. Personne ne vous ravira la joie que Dieu peut vous donner. Amen. Je remarque également dans une autre histoire que, si c'est pour les anonymes, on pourrait dire les petits, c'est aussi pour les grands. Il y a un homme dans l'évangile de Luc, on va lire son histoire au chapitre 8 et au verset 40. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 40. On parle d'un homme religieux, d'un chef de synagogue, quelqu'un qui a du poids dans sa ville. Il est dit ceci. Voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Un peu plus loin, verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un, disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle, plus de joie, plus de rire, plus de bonheur. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Si seulement on pouvait échapper à la mort, si seulement on pouvait échapper à la maladie, les gens paieraient cher, hein ? Paierait cher pour dire, voilà, j'ai un médicament ici, vous le prenez pendant 40 ans, vous ne serez jamais malade. Jamais un rhume, jamais une grippe, jamais une gastro, jamais. Je pense qu'ils vont être en rupture de stock rapidement. Parce qu'on veut tous être en bonne santé, tous, évidemment. Ce papa, on essaie de se mettre à sa place. Cette famille, il y a une maman aussi. Cette famille est dans la détresse parce que ben, l'enfant va mal. Alors vous allez voir les médecins, vous attendez un peu, la fièvre monte, ça ne se calme pas, et puis ça dure, et puis ça dure, et puis petit à petit, ben, les forces diminuent. Et à un moment donné, ça devient un peu critique quand même. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas dans une situation critique ? J'ai entendu quelques personnes me dire quelquefois, « J'ai versé toutes les larmes de mon corps. Je ne peux plus pleurer. Je ne sais pas combien de jours, combien de nuits, combien de larmes, combien de souffrance pour en arriver là. Quelquefois, le corps est endurant, supporte, se bat, lutte, veut obtenir la victoire. Alors imaginez le contexte, si ça vous est déjà arrivé, d'assister et d'accompagner quelqu'un, un être cher, un enfant qui ne va pas bien. Ce n'est pas évident, c'est difficile. Et on combat, et on lutte, et on bataille, et on pleure. Et puis, y a un espoir. Jésus est là. Alors on fait ce qu'il faut, évidemment. Quand ça ne va pas, si l'on vous disait que prier pouvait suffire, mais vous pourriez certainement prier jour et nuit, hein, évidemment. Alors on a été vers Jésus, et cet homme a été vers Jésus, qui plus est, c'est quelqu'un qui est un chef, c'est quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est religieux, c'est quelqu'un qui est croyant à sa manière, mais quelque part, c'est quand même un pécheur. Quelque part, le péché l'a atteint à la naissance. Une flèche a été décochée dans l'invisible et il a été atteint. Même lui, même lui. Et finalement, c'est un condamné à mort en sursis. Mais il ne s'en rend peut-être pas compte tant qu'on est en bonne santé. Quelquefois, d'ailleurs, c'est quand on voit quelqu'un à côté de nous mourir que c'est tellement choquant que là, on se dit, mais ça aurait pu être moi. J'aurais pu être à sa place. C'est arrivé quelquefois dans les tragédies d'avion que des personnes disent, je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé, j'ai eu un bouchon sur l'autoroute. L'avion, l'enregistrement était terminé, l'avion venait de décoller. Qu'est-ce que j'ai râlé ? L'avion s'est scratché. Vous imaginez un peu ? Ils se disent, mais j'aurais dû y être. C'est quand on est confronté à la mort qu'on réalise que ça peut nous atteindre. Mais tant qu'on ne l'a pas en face, quelquefois la vie passe et on ne s'en rend pas bien compte. Là, cet homme devrait considérer la mort. Parce que tous, on devrait cet après-midi considérer la mort. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut tous être prêts à quitter la terre d'un instant à l'autre. Être prêt, c'est pas dire « la mort ne me fait pas peur ». D'ailleurs, on en parlera certainement encore longtemps de tous ceux qui sont décédés la semaine dernière, qui, dans cette tragédie du journal et de tout ce qui a suivi. Mais c'est étonnant comme beaucoup d'hommes, que ce soit des artistes qui ont peint, qui ont écrit, beaucoup ne croyaient ni en Dieu ni en diable. Mais qu'est-ce qu'ils ont parlé du ciel et de l'enfer ? C'est quand même incroyable. Ils n'y croyaient pas, mais comme pour exorciser la crainte. Alors on en parle. Et voilà, il y a certainement quelque chose qui échappe à la raison, parce qu'il faut être prêt à aller dans l'éternité. Et si vous êtes prêt à y aller, ne pas simplement vous dire « Oh, il n'y a rien derrière », moi je vous encouragerais à considérer que Dieu vous attend de l'autre côté et qu'il vous faut faire la paix avec lui. Vous ne pourrez pas, une fois que vous serez dans l'éternité, vous mettre autour d'une table avec Dieu en disant « Bon, alors de quoi on parle là ?» Voilà, maintenant on va parler le même langage. Tu m'expliques ce que tu attendais de moi et moi je vais t'expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Ça ne se passera pas comme ça. Vous ne pourrez pas discuter, vous ne pourrez pas parlementer, vous ne pourrez pas négocier. Non, le ciel, ce n'est pas négociable. L'enfer, ce n'est pas négociable. Soit vous allez au ciel, soit vous allez en enfer. Soit vous êtes un condamné à mort en sursis, mais qui est libéré gracier. Soit vous êtes un condamné à mort en sursis, qui va subir la peine de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Seul le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la mort de Jésus à la croix qui vous rachète, qui vous réconcilie avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Cet homme, pourquoi je vous dis tout cela ? Parce que cet homme, il est obligé de le savoir. Cet homme enseigne les textes bibliques, il les enseigne. Tous les sabbats, dans la synagogue, on en parlera. Et on prendra des textes des prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe. On ira chercher des textes de Moïse, on parlera des psaumes. On rappellera l'éternité, le ciel, on parlera de ces choses-là. D'ailleurs, a-t-il cité lui-même ou l'a-t-il entendu, dit par quelqu'un d'autre, une phrase que l'on trouve dans le livre des psaumes. Les hommes ont voulu faire leur nid dans les étoiles, mais ils mourront comme des hommes. Ça a dû l'interpeller. La condamnation d'Adam et Ève dans le jardin, alors qu'ils sont chassés du jardin et que Dieu mettra un ange avec une épée flamboyante pour pas que l'homme revienne vers la vie. Il y avait une condamnation. Et tout cela, les professeurs de l'Ancien Testament savaient très bien l'expliquer. Il y a des tas de choses qu'il sait, mais il ne les met pas en face de ces réalités. Alors, le seul moyen pour lui d'affronter cette réalité, c'était de voir la mort de près. Il vient vers Jésus pour lui dire « Viens vite à la maison, ma fille n'a qu'un souffle, viens vite, je ne veux pas qu'elle meure. » Sur la route, il est freiné pour aller vers la maison de cet homme. Une autre personne a besoin, une autre personne suscite l'intérêt de Jésus. Jésus s'arrête, Jésus discute, Jésus parle avec cette femme. On a perdu un peu de temps, suffisamment, pour que quelqu'un arrive de la maison de Jaïrus et dise au papa, c'est fini, c'est fini. Ça vous est certainement déjà arrivé d'assister un proche. Vous êtes à l'hôpital, on vous dit c'est la fin, c'est la fin. Et vous lui tenez la main, vous le serrez contre vous et tout à coup vous sentez que ça y est, la vie est partie. C'est fini. C'est triste de se dire c'est fini. Vous ne riez pas dans un moment comme ça. Vous n'avez pas envie d'exploser de joie. Vous êtes à l'inverse, comme va être cet homme, mais totalement brisé, totalement effondré. Jésus est là, et la mort est là aussi. Jésus est là, et on vient dire à cet homme, c'est fini, laisse Jésus partir, ta fille est morte. J'aime la réaction de Jésus et j'aimerais que vous l'entendiez cette réaction. Jésus va s'adresser au Père et Jésus vous dit cet après-midi, ne crains pas, crois seulement. Quand bien même la mort est venue frapper et que cet homme pourrait s'effondrer, d'ailleurs, de voix, moi, il me semble que dans des situations comme cela, s'il nous arrivait de nous trouver dans une situation aussi effrayante, tellement injuste, il ne faut pas oublier que souvent, après les larmes, vient la colère. Hein. Après la souffrance, vient également la haine, en se disant, mais quel est ce Dieu ? Mais ce n'est pas possible, il n'aime personne, il ne m'aime pas. Avant qu'il ne bascule dans l'angoisse et la haine, Jésus lui dit un mot. Jésus l'arrête, Jésus freine, met une barrière. Ne crains pas, crois seulement. J'aimerais vous dire, à vous qui avez pleuré la disparition d'un être cher et qui dites « jamais je m'en remettrai », j'aimerais vous dire « ne crains pas, crois seulement ». À vous qui avez connu la solitude parce qu'un être cher vous a quitté d'une manière ou d'une autre, j'aimerais vous dire « ne crains pas, crois seulement ». Jésus est celui qui peut consoler. Jésus est celui qui peut combler, Jésus est celui qui peut satisfaire les besoins de l'âme. C'est ce qu'on voit. Alors que Jésus vient de dire cela au papa, il lui dit « Allez, on va à la maison ». Quand ils arrivent à la maison, mais c'est une expression très contemporaine, c'est le souk pour de bon. On est en Orient, mais alors ça part de tous les côtés et ça crie et ça pleure et ça hurle et tout ce que l'on peut imaginer dans ce moment de détresse. Mais Jésus est là, alors que tous pleuraient, tous se lamentaient. Lui, il veut faire taire tout le monde. Il est le prince de la vie. Il vient forcément pour donner la joie. Dites, si je vous parle de Jésus, c'est parce qu'il vient forcément pour vous donner la joie. Il veut vous communiquer sa joie. Donc il s'adresse à ceux qui sont là en disant « Ne pleurez pas, arrêtez, ne pleurez plus, elle n'est pas morte, elle dort. » Offense suprême pour certains qui sont très vexés en entendant cela, qui sont très en colère en entendant cela, qui vont se moquer de Jésus. Ni une ni deux, il faut faire sortir tout le monde. Si vous ne faites pas sortir de votre cœur tout cet esprit d'incrédulité qui vous habite, mais jamais vous ne croirez, jamais, jamais. Pourtant, il n'y a rien de plus logique que la foi. Il n'y a rien de plus évident que le message de l'Évangile. Mais le diable brise cette logique-là en mettant une semence d'incrédulité dans votre cœur, juste pour vous dire, tu ne vas pas croire à ces sornets, tu ne vas pas croire à ces balivernes, tu ne vas pas croire à cette histoire, c'est un mythe, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Jésus a fait sortir tout le monde. Il a fait sortir tout le monde. Et il n'a gardé que le papa et la maman, avec quelques-uns des disciples. Et là, il entre dans la chambre. Évidemment, la petite est morte. Elle a 12 ans, mais ça se voit, elle est morte. On le sait. Et Jésus s'adresse à la jeune fille, Talitha Koumi, il la prend par la main. Et il lui dit, jeune fille, lève-toi. Elle ouvre les yeux. Vous vous rendez compte? Elle ouvre les yeux. Elle respire. Dès qu'elle se redresse, tout de suite, Jésus la rend aux parents et ordonne qu'on lui donne à manger. Il faut pas qu'elle reste comme ça. Depuis combien de temps elle était malade? À bout de force, à bout d'épuisement, Jésus dit, allez, elle peut manger. J'ai connu une personne comme ça qui a traîné des mois à l'hôpital. Et elle a décliné. Elle était arrivée à 38, 39 kilos pour 1m75. Et tout à coup, ça a été mieux. Alors, à ce rythme-là, vous ne mangez plus du solide. Hein. Vous avez les pots gélifiés, c'est hyper nutritif. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à aller mieux. Très étonnant, les médecins ne comprenaient pas. Et de jour en jour, il allait mieux. Donc, avant, il n'arrivait pas à manger le tiers d'un de ses pots qu'on trouve dans les hôpitaux. Hein. Le surlendemain, il fallait lui en donner 4 parce qu'il avait faim. Et une semaine après, les personnes de sa famille venaient avec des gâteaux, ils mangeaient. Il a fallu que ça se fasse quand même petit à petit, mais pour reprendre des forces, il fallait manger. Cette fille est sur la voie, non pas de la guérison, elle est guérie. Elle est sur la voie du parfait rétablissement. Imaginez un instant la joie que ça a pu susciter parmi tous ceux qui étaient là. Ici, souvent, les larmes ont caché la colère et ont masqué la haine qui arrivait par derrière. Les mots de Jésus sont les meilleurs dans ces moments-là. Ne craignez pas. Croyez seulement que Jésus est le réparateur des brèches et qu'il donne la vie à qui il veut, comme il le veut, quand il le veut. Cette jeune fille était malade, Jésus était pas loin, mais elle meurt. Et quand Jésus prend les choses en main, la joie revient. Je pense qu'on a dû faire un banquet, on a dû célébrer cela et on a dû faire la fête comme il se doit. Je terminerai sur un dernier texte. Jésus, et le message de la foi, c'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est pour les anonymes, c'est pour les religieux, c'est aussi pour ceux qui veulent le suivre et ceux qui le suivent depuis quelque temps, depuis si longtemps. Il sera là pour rendre la joie si la joie s'en va. Vous avez une famille très attachante dans le Nouveau Testament. Cette famille est composée de deux sœurs et d'un frère. On connaît leurs noms. Marthe, Marie et Lazare. Ces trois vivent un village à côté de Jérusalem, Béthanie. Et assez régulièrement, Jésus passe par là et il a trouvé une maison d'hôte très, très agréable. Et bien souvent, il peut s'arrêter là, prendre un temps. Et quand il vient, on s'affaire pour lui faire un bon repas, pour que ce soit un moment agréable. Et puis, un beau jour, on vient prévenir Jésus alors qu'il n'est pas là. On vient le prévenir, viens vite. C'est un message de Marthe, de Marie, viens vite. Lazare, ton ami, celui que tu aimes, est malade. De l'endroit où il se trouve, il y a plusieurs jours pour se rendre à Béthanie. Alors, Jésus entend la nouvelle et Jésus n'y va pas tout de suite. Il prend son temps. C'est l'évangile de Jean au chapitre 11 qui nous explique cela. Et puis, au bout d'un moment, il décide d'y aller. Allons-y maintenant. Et quand ils arrivent, malheureusement, ça faisait 4 jours qu'il était mort et qu'on l'avait mis au cimetière. 4 jours. C'est pas comme la jeune fille dont le corps est peut-être encore chaud, parce que voilà, ça vient d'arriver, elle vient de mourir. On vient de constater sa mort, il s'est passé quelques minutes, mais vous savez, quand on est mort, 3 secondes après, ou 4 jours après, c'est pareil, hein, on est mort. On aimerait bien que la vie revienne, allez, mais la vie n'est plus là. Et quelque part, c'est incroyable parce que lorsque Jésus arrive, la réaction des deux sœurs qui aimaient leur frère et qui ne comprennent pas, Jésus a été prévenu à temps, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'a pas dit un mot de là où il était? Parce qu'après tout, Jésus peut guérir à distance. Pourquoi il n'a pas dit un mot de là où il était? Et ça suffisait pour guérir Lazare? Non, alors ne comprends pas bien. Et toutes les deux vont demander à Jésus, mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Si tu avais été là plus tôt, ça ne se serait pas passé comme ça? Bref, ça s'est passé comme ça. Le fait est que si le temps semble avoir joué en la défaveur de Lazare, puisque le temps a joué contre lui, Jésus n'a pas eu le temps d'arriver, donc il est mort. Mais relisez bien le texte, si vous le connaissez, et vous verrez que Jésus a fait exprès d'arriver si tard. On est étonné quelquefois de se dire « je ne comprends pas pourquoi Dieu fait rien ». Mais Dieu sait tout. Et s'il ne fait pas, il a ses raisons. Mais en tout cas, il n'est jamais en retard. Jamais. Le problème, c'est qu'on n'a pas la même montre. Il n'a pas la même que nous. Nous, on avance. Nous, on recule. Nous, ça tombe en panne. Lui, il a son timing. Ça ne semble pas étalonné comme nous, de toute façon, les minutes, les mois, les jours. Bref, le fait est que il arrive. Et malgré que tout le monde pleure, il va demander « Mais où est-ce que vous l'avez mis ?» Alors on lui montre l'endroit, il y va. Et il dit « Allez, enlevez la pierre !» On ne faisait pas ça, hein ?« Enlevez la pierre !» Et plusieurs de dire « Non, on n'enlève pas la pierre. Il est mort depuis 4 jours, il sent déjà, le corps est en train de pourrir, on ne va pas enlever la pierre !» Et Jésus va ordonner qu'on enlève la pierre et il va donner une bonne leçon à tout le monde. Quand Jésus est là, la joie revient toujours, 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 toujours. même si vous venez de passer 4 jours et 4 nuits blanches et 4 jours infernaux, la joie revient quand Jésus est là. Il va s'adresser à Dieu en parlant de ceux qui sont autour de lui. Et il va dire, mais Père, pour moi, je ne prie pas pour moi. Moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie pour la foule qui est là, afin qu'ils sachent que tu as tout pouvoir et que tu peux ramener la joie, que tu peux ramener la vie là où il y a la mort. Alors il va s'adresser aux morts. Lui, il pouvait parler aux morts. Vous n'avez pas le droit de parler aux morts. N'allez pas voir les voyants, les soi-disant les médiums, ça ne sert à rien. Mais Jésus commande à la mort de lâcher l'emprise. Il commande. Il va s'adresser aux morts en disant, Lazare, sors. Lazare, sors. Vous imaginez les uns les autres en se disant, n'importe quoi, deviens fou. On ne parle pas aux morts comme cela. C'est déjà qu'on a dû enlever la pierre, il faudra vite la remettre quand même. Hein. La remettez pas trop vite, ne coincez pas Lazare au moment où il va sortir. Hein, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit qu'on a vu sortir une espèce de momie, hein, parce qu'on l'avait entortillée comme ça, avec des linges, on l'avait embaumé. Et quand il sort, Jésus le voit sortir et dit, allez, déliez-le, enlevez-lui toutes les bandes, etc. Et laissez-le aller, il est vivant. J'aimerais tellement que votre espérance se délie cet après-midi. J'aimerais tellement que la mort soit emprisonnée, mais pas sur vous, mais là où elle se doit, direction l'enfer avec le diable, et que vous soyez déliés cet après-midi. Jésus est venu vous rendre libre. Jésus est venu vous offrir la liberté. Jésus est venu vous dire qu'il peut vous guérir. Guérir votre cœur en souffrance, guérir votre corps malade, guérir votre âme en détresse, parce que vous avez peur de la mort, vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de l'échec, vous avez peur que le passé vous rattrape, tant de choses qui peuvent effrayer et qui peuvent faire en sorte que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas ri, bien longtemps qu'on n'a pas éclaté de rire. Un fou rire, j'en ai pas eu depuis des mois, des années. Jésus est celui qui peut vous rendre la joie. Laissez-le faire cet après-midi, laissez-le intervenir dans votre vie. Il est le prince de la vie. Finalement, il est le créateur de la joie. Il est le créateur de la joie. Quand Dieu a créé le monde, il a vu que c'était bon. Quand il a créé l'homme, il a dit, c'est parfait, c'est super, c'est très bon. Il a réalisé qu'avec l'homme, ses plans divins allaient s'accomplir d'une façon extraordinaire. Vous faites partie de ce projet. Pourquoi est-ce que vous restez à côté? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans ces projets-là? Laissez Dieu vous toucher. Dites-lui oui cet après-midi. Comme on l'a chanté, je dis oui à Dieu. Je dis amen. Je veux être libéré. Et vous verrez que Dieu le fera. La différence entre ces 3 morts et ressuscités et vous, elle est mince en fait. Parce que vous êtes quand même mort si vous n'êtes pas déjà ressuscité. Et si vous êtes déjà ressuscité, gloire à Dieu. Mais si vous n'êtes pas ressuscité, ça veut dire que vous n'avez pas compris, que vous êtes condamné à cause de vos fautes. Faites la paix avec Dieu cet après-midi. Donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur et les choses vont changer pour vous. Je peux vous le garantir. Amen. On va prier pendant quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux, parce que tu es parfait. Parce que tu es bon, parce que tu aimes les hommes et parce que tu nous aimes. Je veux te remercier, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu vas accomplir encore maintenant. Ma prière, c'est que tu bénisses cet auditoire, c'est que tu bénisses chacun, c'est que tu accordes ta grâce. Il y a des besoins, il y a des soupirs, il y a des intentions, et puis il y a la réalité, il y a l'obstacle, il y a la difficulté qui se lève et qui fait jour. Maintenant, je te demande d'étendre ta main. Et je te demande de toucher encore un cœur, une âme, parce que ton sang parle beaucoup mieux que tous les grands discours, que tous les vains discours, parce que ton sang qui coule à la croix est notre garantie de vie. Je prie que quelqu'un te trouve cet après-midi et que quelqu'un fasse la paix avec toi. Étends ta main dans un cœur et dans une âme, que quelqu'un comprenne le salut, que quelqu'un saisisse la grâce. Tu es celui qui rend la vie aux morts, tu es celui qui donne la liberté, tu es celui qui rend la joie, donne la joie à qui n'est plus joyeux depuis trop longtemps, depuis si longtemps, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Amen. On va rester un instant dans le recueillement. Et je voudrais m'adresser à vous qui avez besoin de cette fameuse grâce. On va prier, on va croire à la puissance de Dieu, on va croire à la grâce divine, à la miséricorde divine, on va croire qu'il est le Dieu fidèle, qu'il est le Dieu parfait, qu'il est le Dieu merveilleux. On va croire qu'il guérit, qu'il soigne les blessures, qu'il accompagne, qu'il soulage, qu'il apporte la paix, parce qu'il est le prince de la paix. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui a besoin de retrouver la joie, qui a besoin de trouver la joie, si ce n'est pas la retrouver, au moins la trouver? J'ai connu aussi quelqu'un qui n'arrivait plus à pleurer, non pas parce qu'il avait trop pleuré, mais parce qu'il avait décidé un jour qu'il ne pleurerait plus jamais, parce qu'il avait trop souffert, trop pris de coups, il avait trop été blessé quand il était enfant, combien de coups jusqu'à tomber dans les pommes, combien de fois. Et quand il a grandi, il a dit: c'est fini maintenant, plus jamais je pleurerai, et celui qui me fera du mal, c'est lui qui pleurera. Un homme violent, un homme dur, parce qu'il avait décidé que maintenant ce serait lui qui serait méchant, c'est lui qui ferait pleurer les autres. Quelquefois on n'a pas et on n'a plus l'intention de pleurer, tout simplement parce qu'on n'est plus sensible à rien. On a trop été marqué, donc on s'est blindé. On a verrouillé son cœur, on a verrouillé son âme, on a fermé tout cela. Et on dit: maintenant, rien ne passera. Vous avez besoin de sentir que Dieu vous aime cet après-midi. Vous ne pouvez pas vivre sans ça. Vous avez besoin de sentir son amour, son regard bienveillant sur vous. Il vous faut réaliser qu'avec Dieu, la vie est belle et qu'il vous assure un avenir, il vous assure quelque chose de bon. J'aimerais prier pour vous qui ne goûtez pas, qui ne connaissait pas le salut, le pardon, le ciel, qui doutait de votre éternité, qui doutait de votre avenir, qui doutait de votre lendemain, qui avait peur. J'aimerais prier pour vous maintenant. J'aimerais demander à Dieu qu'il visite votre être tout entier, qu'il vous accorde sa bénédiction. Voulez-vous simplement que l'on prie ensemble? Voulez-vous faire un acte de foi? Voulez-vous croire que Dieu va agir maintenant? Pendant qu'on reste dans le recueillement les uns et les autres, on va prier et je voudrais prier avec vous. Non pas pour vous, mais avec vous. Je voudrais prier avec vous. Je voudrais que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Je vous demanderai juste une chose. Levez-vous alors spontanément à votre place. Restez là, à votre place, et on va prier. Et on va demander à Dieu d'agir. On va demander à Dieu d'intervenir. Vous qui avez besoin de sa grâce, n'hésitez pas, faites-le maintenant. Dieu va vous bénir, il va vous faire du bien. Je crois à la puissance de Dieu qui relève, à la puissance de Dieu qui touche les cœurs. Et je crois que quand bien même on aura manifesté sa foi une fois, deux fois, dix fois, tant que notre cœur n'est pas satisfait, comblé, alors il faut persévérer, il faut le faire encore. Il y a une bataille, il y a une lutte dans votre cœur, certainement, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous attire vers le passé, qui vous fait croire que non, le bonheur n'existe pas, non, le bonheur tu ne l'auras pas, non, la grâce de Dieu ce n'est pas pour toi, mais nous vous disons que oui, la grâce de Dieu c'est pour vous, la miséricorde de Dieu elle est pour vous, son secours est pour vous, il vous aime, il veut vous faire du bien. N'hésitez pas à vous lever et on va prier et on va demander à Dieu d'intervenir maintenant. Seigneur, nous venons devant toi, nous réclamons ta grâce, nous te supplions d'étendre ta main maintenant et de bénir chaque cœur, chaque vie. Nous croyons à ta bonté, nous croyons que ces personnes debout, elles sont debout devant toi et elles te voient. Et parce qu'elles sont debout devant toi, elles vont être bénies maintenant. Je prie que tu te saisisses de leur être tout entier, que tu te saisisses de leur âme, que tu les relèves au nom de Jésus, que tu leur apportes la paix et que tu les visites maintenant. À toi la gloire, à toi l'honneur et la louange. À toi, grâce, miséricorde, secours, que tu prodigues maintenant tes soins, tu vas les accomplir, tu vas manifester ta bienveillance. Étends ta main et relève, bénis nos bien-aimés, accorde-leur ta grâce. Et ce que personne ne peut faire, fais-le. Ce qu'aucun ne pourra accomplir, fais-le maintenant. Agis, je t'en prie, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Agis, nous t'en prions, Seigneur. Amen.